Voici l'évangile de Noël. C'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle, celle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Christ est notre Pâque. C'est le cri de l'apôtre Paul et cela nous dit, cela parle de ce que Dieu nous apporte à nous dans nos vies. Et cela met en regard nos deux grandes fêtes chrétiennes, Noël et Pâques. Ce qui se retrouve dans bien des sculptures et peintures chrétiennes comme celle que je vous ai proposée sur la première page de ce livret qui met en regard donc l'Annonciation à Marie et puis la naissance de Jésus d'un côté et de l'autre Jésus maltraité et crucifié de l'autre. Mais on le retrouve dans presque tous les retables qui étaient dans les églises chrétiennes. Alors c'est une façon très spirituelle et profonde de comprendre ce que le Christ nous apporte concrètement dans notre vie que nous propose l'apôtre Paul avec ce cri qui dit que Jésus est notre Pâque. Alors pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là, j'ai sélectionné deux textes dans les lettres de Paul, d'abord celle aux Romains. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Et par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Et dans la première lettre aux Corinthiens, quelque chose d'un corps un peu plus surréaliste, mais que nous verrons tout à l'heure. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos aïeux ont tous été sous la nuée, sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher, c'était le Christ. Alors je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ? Et puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle, un souffle de naissance à une vie nouvelle, à ton souffle de résurrection et de vie, à ton souffle de bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc la bonne nouvelle de Noël. Christ est notre Pâques. Il apparaît, il vient au monde pour nous. Alors de quoi est-ce que Paul parle quand il dit cela ? Pâques, c'est le grand récit de la Bible qui dit comment Dieu nous libère, nous arrache à ce qui nous rend esclaves, à ce qui nous enferme. Et il nous fait avancer donc vers la liberté, vers la vie, vers l'épanouissement de notre personnalité, de notre âme. Alors c'est précieux car c'est pas évident d'être une personne libre, loin de là. Par exemple, est-ce qu'un petit enfant est libre ? Alors c'est vrai qu'il peut faire ce qu'il veut avec ses petits moyens, mais est-ce qu'il a choisi ce qu'il veut ? Pas tellement. Il est captif de son désir de l'instant. Pour être un peu plus libre, il faut toute une vie. Il faut une croissance. Il faut une maturation afin d'avoir une bonne capacité à voir clair sur le monde et puis aussi en nous-mêmes, ce qui est le plus compliqué. À saisir les situations donc avec nuance, à élaborer des choix personnels selon ce qui importe le plus pour nous dans la vie. Et enfin, et non des moindres des difficultés, arriver à suivre ce que nous avons choisi comme priorité. C'est donc tout un programme. C'est une évolution à vivre. Une personne est-elle libre de faire la guerre, d'agresser des femmes et des enfants, de détrousser ses semblables ou des entreprises ? Jésus nous dit, en parlant des soldats romains qui le crucifient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne feraient pas ça s'ils savaient véritablement ce qu'ils font. Et combien ils pourraient, au contraire, être merveilleusement utiles en agissant différemment, en embellissant le monde. Alors depuis toujours, le projet de Dieu est de nous libérer, de nous faire vivre notre Pâques, que notre sauvagerie soit ainsi débordée et que notre bonne personnalité prenne toujours un peu plus le contrôle sur notre vie, sur notre propre être. C'est ce que souligne le philosophe Paul Ricoeur. À la fin de sa vie, dans un entretien, il nous dit quelque chose qui est un peu son testament spirituel, dans un sens. Il nous dit « Personnellement, je crois de plus en plus que la grande question qui doit travailler la communauté des croyants, sa vocation, c'est comment libérer le fond de bonté de l'humain. Il y a tellement de malheurs, de désespérance, de violence, qu'il faut rassembler tous les petits bonheurs, tous les signes de bonté contre une tradition de culpabilisation. Ne faudrait-il pas essayer, vraiment maintenant, de libérer la bonté, de découvrir ce fond de bonté qui n'a jamais été complètement effacé par le mal. Eh bien, quand Paul parle ainsi, Christ est notre Pâques, eh bien, c'est dans la culture biblique cela dont il parle. Christ libère notre fond de bonté, de tout ce qui l'étouffe. Le récit biblique de la Pâques parle de cela, et c'est un récit à vivre en fait. Notre propre fond de bonté est figuré par le peuple hébreu. Et notre sauvagerie, elle est figurée par les soldats du Pharaon qui empêchent les Hébreux de s'échapper, de vivre. Alors c'est aujourd'hui Noël, c'est le récit d'un accouchement, c'est le récit d'une naissance. Eh bien le récit de la Pâque, dans le livre de l'Exode, commence en quelque sorte par un accouchement, dans un jaillissement à travers l'eau. Les Hébreux étaient captifs. Dieu leur permet d'échapper à travers la mer Rouge. C'est comme une naissance à travers l'eau, un tri en nous-mêmes pour sauver ce qui est vivant de la sauvagerie des Égyptiens. Il y a donc quelque chose d'une mort et d'une naissance dans ce passage. Naissance de notre fond de bonté qui existait comme en gestation avant, mais qui maintenant peut jaillir dans le monde et être libre. Et puis mort de ce qui retenait notre bonté captive. Comme le dit Ricoeur, tous trop de malheur, trop de désespérance, trop de violence. Paul nous précise le lien avec le Christ qui nous est donné en ce jour de Noël. Cette Pâque est comme une plongée dans la vie du Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est une démarche, c'est un processus de nouveauté de vie. Et donc voilà ce qui nous est offert par Dieu en Christ. Voilà ce que nous célébrons à Noël et à Pâques. Alors tout ça, ça semble abstrait de la théologie spéculative. Mais non, c'est concret. Et c'est ce qu'essaye d'expliquer l'apôtre Paul avec ses mots. Comment vivre ce processus de libération, de naissance. Paul parle de baptêmes qui sont essentiels pour vivre le processus dont il est question. Alors c'est un peu étrange parce qu'on sait que Paul, en fait, ne baptisait en général personne. Et d'ailleurs, Jésus non plus ne baptisait pas. Ce n'est donc pas une question de rite dont il parle, sinon ils auraient baptisé tout le monde. Mais le verbe « baptisein » en grec veut dire simplement « plonger dans du liquide ». Comme on plonge le pain dans le fromage fondu. Baptiser en Christ, c'est plonger dans le Christ, pour nous en imbiber finalement. C'est ça l'essentiel que Paul souligne. Et il y a bien des façons de se plonger dans le Christ. C'est une opération de chaque jour, c'est pas une chose qu'on fait une seule fois au début de sa vie, puis c'est bon pour le reste. C'est un travail intellectuel en nous interrogeant, en nous questionnant sur ce qu'il a enseigné. C'est une démarche spirituelle en priant ce Dieu de bonté qu'il nous révèle enfin. C'est s'inspirer de la façon d'être de Jésus, de son authenticité, de sa liberté. Il ne s'agit pas d'être une photocopie de Jésus, mais d'avoir notre propre authenticité, liberté. De parole, d'action, en fonction de notre bon fond, de notre vocation de l'instant. Peut-être avoir aussi sa générosité, parfois un peu rugueuse, cherchant à libérer chacun. Paul parle d'une autre plongée pour expliquer à ces personnes pétries de culture biblique ce dont il est question. Le lien avec la Pâque. Ce grand récit de libération, cette épopée de Moïse. Et donc parle de se plonger, d'être baptisé en Moïse. Et cela afin de nous aider à comprendre ce processus de libération de notre fond de bonté personnelle. Alors il y a quatre choses, nous dit l'apôtre Paul, dans un récit avec des jeux d'images quand même un peu paradoxales. Donc il y a une plongée dans la nuée, il y a une plongée dans la mer. Il s'agit de manger le même aliment spirituel et de boire le même breuvage spirituel. Alors c'est un programme. Le premier donc, une plongée dans la nuée. Alors si vous avez lu le livre de l'Exode, mais peut-être que pendant les vacances, vous avez le temps de lire ce récit, cette épopée célèbre. Eh bien, la nuée dont parle Paul, c'est ce qu'on appelle en français courant la Shekhinah, Shrina en hébreu. C'est la présence concrète et sensible de Dieu. Ce n'est pas le Dieu au plus haut des cieux, non, c'est le Dieu avec nous. C'est le moteur de l'avancée des Hébreux dans leur libération à travers la mer, à travers les fleuves et les déserts. La nuée ou la Shekhinah, c'est une figure très féminine de Dieu. C'est un Dieu qui nous accouche, un Dieu qui nous porte dans ses bras, qui nous allaite, qui qui nous couvre pour nous protéger, exactement comme Marie pour Jésus dans l'évangile de Noël que nous avons entendu. Cette Shekina est l'exact inverse d'un Dieu guerrier, d'un Dieu supérieur, surplombant, d'un Dieu terrible, d'un Dieu juge et tout-puissant. Non, c'est un Dieu de tendresse. Se plonger dans la Shekina, c'est choisir d'entrer dans la confiance en ce Dieu qu'a manifesté Jésus-Christ. Méditer ce Dieu dont nous parle, que nous révèle Jésus-Christ. Et puis c'est travailler dans la prière ce sentiment alors d'être en paix, d'être gardé précieusement, d'être en sécurité comme un bébé dans les bras de sa mère qui l'allait. Ce Dieu-là, de la Shekina, de la nuée, il nous parle comme à Moïse, face à face, ou plutôt cœur à cœur, parce que c'est au-delà des mots. Voilà la plongée dans la nuée. Ensuite, une plongée dans la mer. Peut-être parce que nous avons cette sécurité ressentie auprès de ce Dieu de bonté infinie. Nous pouvons alors avoir assez confiance pour discerner en vérité nos bons côtés et puis nos côtés souffrants, angoissés, voire pénibles. C'est alors que commence ce soin de Dieu pour libérer notre fond de bonté du trop de malheur, trop de désespérance, trop de violence qui peut être alors réduit, écrasé. Voilà la plongée dans la mer, comme un soin de Dieu, un tri, une purification. Ensuite, il y a manger le même aliment spirituel. Après cette naissance et ce soin vient l'alimentation. C'est normal pour un enfant, il a besoin d'être nourri pour grandir. Et donc un aliment qui est le corps du Christ, nous dit Paul. Aliment spirituel, nous dit-il, répète-t-il. Et non matériel, bien sûr. On ne va pas manger un morceau de protéines issues du corps de Jésus. Donc le manger le Christ, c'est prendre sa personne, ses paroles, ses actes. C'est s'interroger, c'est les mâcher, les déconstruire, les digérer, afin de mieux les incorporer à notre être, à notre vie. Ce que Dieu nous donne pour libérer notre fond de bonté, c'est donc la grâce de pouvoir nous questionner, de nous poser toutes les questions. Effectivement, les paroles de Jésus, elles sont dérangeantes, elles sont souvent, ils poussent souvent le bouchon trop loin. Il y a ces paraboles qui sont toujours étranges, ces gestes qui ne peuvent être abordés qu'en se posant effectivement 1000 questions. Cet aliment spirituel qu'est le corps du Christ nous rappelle bien sûr le sacrement de communion auquel nous allons être invités. Mais ce rite n'est qu'un moyen pour nous aider à nous saisir de l'essentiel que nous avons en Christ, comme une nourriture spirituelle. C'est à nous ensuite de nous l'approprier, de nous en nourrir, de l'assimiler. L'essentiel, c'est dans notre mentalité, bien sûr, dans le « oui, je le veux » que évoque ce geste de prendre le pain, de prendre la coupe. L'essentiel, c'est dans le « me voici » en réponse à l'amour de Dieu qui nous attend, qui nous espère. Alors ce « oui » à Dieu, c'est un geste très individuel, très personnel, très intime. C'est pourquoi il est utile que Paul insiste sur le fait que nous avons une même nourriture, un seul Christ, un seul pain spirituel. Car alors, en choisissant très individuellement, très personnellement le Christ comme nourriture spirituelle, si nous avons un seul pain, un seul Christ, ça a pour conséquence heureuse de nous rassembler en un seul corps, dont chacun est un précieux membre. Alors après la nourriture, il faut boire un petit coup. Boire le même breuvage spirituel, nous dit l'apôtre Paul. L'essence même de la prière consiste à boire à cette source qu'est Dieu, à lui demander son esprit, qui est notre breuvage spirituel, souffle de création qui nous donne de pouvoir créer. Mais alors, où trouver cette source ? Paul nous dit que l'esprit de vie coule ici d'un rocher mobile qui nous accompagne dans notre cheminement, et que ce rocher mobile, qui est en même temps une source, c'est le Christ. Donc c'est vrai que l'image est quand même assez surréaliste, mais elle est parlante, car le rocher, c'est dans la Bible la figure de Dieu comme la fondation solide, le roc, parce qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonnera pas. Donc, Christ nous donne le modèle d'une vie bâtie sur ce roc de la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, confiance inébranlable, quoi que nous ayons fait, quoi que nous soyons. Et puis la source jaillissante de l'Esprit de Dieu, de sa parole, elle jaillit de ce rocher, de cette confiance, de cette grâce de Dieu. Mais ce rocher n'est pas un roc immobile. C'est un cheminement. Et cela nous invite à être dans un cheminement permanent. Effectivement, Christ est cheminement. Vivre, c'est évoluer. Être fidèle et vrai, c'est évoluer. Aimer, c'est évoluer aussi en fonction de ceux qui nous sont donnés à aimer. Ne pas baisser les bras, c'est aimer, c'est avancer encore. Et donc c'est à ce rocher mobile que nous buvons de larges goulées d'Esprit Saint, et c'est tout à fait pétillant. Amen.